chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition interactive avec vous, avec votre participation. On va parler notamment des inondations actuellement en Centrafrique, entre autres, où au moins 28 000 personnes sont sans abri après 10 jours de pluie diluvienne qui ont fait déborder la rivière Oubangui. De nombreuses maisons en terre ont fondu sous les eaux et plusieurs champs sont devenus marécageux. De plus en plus de régions dans le monde d'ailleurs sont affectées par les inondations et l'Afrique n'est pas épargnée par ces catastrophes naturelles. Alors comment y remédier selon vous et limiter les dégâts lors de fortes précipitations, notamment en matière d'habitat? Les logements sont-ils adaptés aux réalités météorologiques selon vous et quelles mesures d'urgence pensez-vous qu'il faudrait adopter dans de tels cas? Alors, à Bangui notamment, on a des gens actuellement qui se déplacent en pirogue et tous les 10 ans à peu près, l'Oubangui connaît une forte crue. Celle-ci a été aggravée par des précipitations exceptionnelles pour cette saison et dans les quartiers inondés donc, de la capitale centrafricaine, en majorité couverts d'habitats précaires, les eaux usées se sont mélangées à celles du fleuve. On y trouve des déchets, des ordures selon certains habitants. Donc on a un gros problème actuellement d'eau potable. Les moustiques, bien entendu, risque d'épidémie choléra selon le ministre de la Santé Pierre Somsé, précisant que l'eau remonte. Il dit que les dispositifs d'hygiène ont disparu, les gens sont entassés dans des sites à peine aménagés, ce qui va encore aggraver le problème selon lui. Et alors pour les pêcheurs par exemple, qui sont majoritaires dans les quartiers longeant l'Oubangui, l'inondation est en effet un double coup dur. Ils ont eu leur filet emporté, donc leur outil de travail en quelque sorte, et les habitants d'un village ont dû quitter leur île en face de la capitale pour se réfugier dans un entrepôt désaffecté. Et cela fait quasiment une semaine qu'il campe sous des bâches distribuées par le député de la circonscription. Le gouvernement ne dispose que de moyens limités pour reloger les gens. Il n'existe aucune structure pouvant les accueillir et l'on sait que 2/3 de la population centrafricaine déjà dépend de l'aide humanitaire pour survivre selon l'ONU. Bon, c'est l'exemple de la Centrafrique, mais on a d'autres pays, on va en parler tout à l'heure. Justement, on va en parler avec vous, notamment éventuellement en prenant un premier auditeur. On a Tidiane Botegueba en ligne, qui pense qu'il faut que les responsabilités...
Oui, bonsoir madame, bonsoir à toutes les auditeurs de la Zoa.
Bonsoir Tidiane, vous êtes à Douala, on vous écoute. Est-ce que vous avez ce type de problème, notamment au Cameroun?
Oui, particulièrement ici au Douala, en fait, exemple, plusieurs, on assiste quand même à ce genre de catastrophes. Parce que, en tout cas, comme disait Marie-Jeanne Abega, en tout cas, les zones à risque ne sont pas respectées. Le désordre urbain et le laxisme des autorités aident beaucoup, parce que les citoyens, en tout cas le moins cher, par exemple, en construisant et en habitant vraiment dans les zones inondables, surtout au niveau des rivières, par exemple ici à Douala, je vois, dans toutes, en tout cas, les zones privées des inondations. Et toutes ces inondations, en tout cas, a eu lieu dans les zones, en tout cas, à risque, là où il y a les rivières. Parce que dès qu'il pleut assez, donc, les caniveaux, en tout cas, se donnent rendez-vous au niveau vraiment de ces rivières. Et dès que, les rivières se remplissent, donc toutes ces personnes qui habitent à ces zones, en tout cas, elles seront quand même victimes. Donc il y aura des dégâts matériels, des dégâts vraiment humains de fois. Donc moi je pense que les autorités quand même doivent jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire en s'opposant toutes, en tout cas, à ces personnes quand même habite dans ce lieu, malgré qu'il y a des fois quand même que cette personne résiste assez, parce que des fois l'État vient quand même pour le dégertir, mais dès que quand même il y a des dégertissements, donc on entend beaucoup quand même de bruit aussi vraiment provenant de ces personnes qui habitent dans ce lieu.
Un grand merci, Tidiane, pour votre témoignage. Marie-Jeanne Abega, qui est également de Douala comme vous, pense, alors elle a écrit sur notre Facebook, elle pense que les logements ne respectent aucune norme. D'ailleurs, dit-elle, les zones à risque ne sont pas respectées. Désordre urbain et laxisme des autorités aidant. Du coup, les catastrophes n'épargnent pas les contrevenants, dit-elle. On a également la réflexion de Moississé, et qui pense que les autorités doivent appliquer rigoureusement les règles en matière de construction pour éviter les constructions anarchiques. Les curages des caniveaux et le civisme des citoyens peuvent aider à éviter les inondations, dit-il. Et avant de prendre Norbert Mukendi, qui est en République démocratique du Congo, on va notamment citer le cas du Nigeria, où il y a de fortes précipitations, notamment dans le centre du pays, dans l'état de Kogi. Alors, les sérieux dégâts dans la localité de Coton Café lundi ont permis à plus d'une centaine de détenus de s'échapper de la prison locale quand leurs cellules ont été submergées par les eaux. Alors 122 détenus en ont profité donc pour s'échapper, 25 des fugitifs ont été récupérés par la suite, 97 sont toujours en cavale. Et on a également un problème de pluie torrentielle dans l'état d'Adamawa, dans le nord-ouest qui est frontalier au Cameroun, où plus de 40 villages y ont été détruits par les eaux. On prend Norbert Mukende, qui est en République démocratique du Congo et qui pense que les autorités de Bangui doivent initier des opérations de salubrité. Norbert, comment ça va?
Ça va bien, madame la journaliste.
Ça va très bien, on vous écoute.
Ok. Ce sujet-là, je pense que ce qui cause des inondations chez nous en Afrique, c'est la construction des maisons en architecture, en tenant compte des normes architecturales. Donc, quand ça les tient, les autorités de Bangui doivent initier des projets, initier des programmes comme nous avons adopté ici au Congo. Il y a des programmes que nous avons, que le gouverneur et le président de la République a adopté. Donc, il y a des travaux qui se font à chaque fin de la semaine. Nous, les jeunes se mobilisent à collaborer avec les bourgmestres et les chefs communes et on débouche chez les carnivores qui sont bouchés. Et cela doit aussi contribuer à la salubrité dans notre cher continent africain. Donc, c'est ça, moi, ma contribution.
Mais vraiment, c'est vraiment très intéressant ce que vous venez de nous annoncer, Norbert, qui est à Kinshasa, qui dit donc participer à un programme, donc programme qui s'adresse à la jeunesse, hein, pour déboucher les canaux, donc ce qui permettrait d'éviter ce type d'inondation, entre autres. Merci beaucoup, Norbert, hein, pour ce témoignage. Alors, au Niger, on a également un problème d'inondation également au Niger. J'ai parlé tout à l'heure du Nigeria, où 23 000 personnes ont dû quitter leur foyer depuis début octobre à cause d'inondations dans la région de Difa. Alors, les pluies exceptionnelles enregistrées ces dernières semaines dans cette zone semi-désertique ont fait déborder la rivière Komadougou-Yobé qui alimente le lac Tchad. Et plus de 45 000 personnes au total ont besoin d'une aide urgente, selon les autorités. Donc, ça, c'est pour le Niger. Est-ce qu'on a Karim Santi au Burkina Faso en ligne? Karim Santi? On a Aruna Baldé. Alors, je vais citer Karim avant de prendre Aruna. Karim, qui est donc au Burkina Faso, il dit qu'il faut reconstruire les caniveaux. Avec le changement climatique, tout est à changer, dit-il, et mettre des gens en place pour surveiller ceux qui utilisent les caniveaux pour leurs poubelles. Je pense qu'il faut déloger ces gens vers les zones non inondables. La responsabilité est partagée. Donc, c'est Karim qui est au Burkina Faso. On essaie de joindre Junior et on a Aruna Baldé qui est au Sénégal. Aruna, bonsoir, comment ça va?
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les étés de la Vera Afrique.
Alors, vous pensez-vous qu'il faut mettre des gros canaux d'évacuation qui répondront au risque d'inondation et mettre en place un plan d'aménagement qui facilitera l'accès des secouristes? Autrement dit, est-ce que vous avez ce type de plan à Dakar? Est-ce que vous rencontrez, par exemple, ce type de problème?
Bon, bien sûr, il y a 4 ans de cela, Dakar, la capitale sénégalaise, rencontrait de même difficultés d'inondation. Mais voilà, ces temps-ci, ces deux dernières années, on a eu une amélioration nette parce qu'on n'a pas entendu les populations se plaindre des inondations. Grâce à une volonté politique, c'est-à-dire aujourd'hui, l'État a orienté vraiment une bonne politique d'aménager les grandes artères de la capitale, en quelque sorte, surtout dans la banlieue aujourd'hui. Parce que je suis témoin clair, on voyait que dans les rues, il y a des grands caniveaux qui sont en train d'être construits pour vraiment permettre à évacuer l'eau facilement en quelque sorte. Je pense que ce sont ces aires d'infrastructures qu'on pourra vraiment mettre dans les grandes villes pour éviter les risques majeurs d'inondation. En dehors de ça aussi, il faudra qu'il y ait un plan d'assainissement très net en quelque sorte, parce qu'on voit beaucoup d'anarchie dans l'occupation de l'espace dans les villes, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, on construit là-haut, parfois il y a un endroit, le sol n'est pas vraiment conçu pour vraiment être construit, pour être habité en quelque sorte, mais les populations s'entêtent par manque de sensibilisation, peut-être ils y résident et voilà les conséquences qui arrivent. Je pense aussi l'État a les possibilités de sensibiliser les populations qu'il y a des zones qui ne sont pas destinées à être habitées en quelque sorte. Je pense que si on parvient vraiment à sensibiliser la population, on va éviter vraiment les inondations en quelque sorte.
Un grand merci Haruna pour votre témoignage, votre point de vue. Avant de prendre Asmaïlou qui est au Togo, on va citer notamment Aziz Yunga qui dit sur notre Facebook que pour remédier aux problèmes d'inondation en Afrique, il faut un suivi rigoureux dans la construction de nos maisons et construire des caniveaux adaptés à nos réalités et sensibiliser les populations à ne pas utiliser les caniveaux pour des poubelles. Alors vous avez été nombreux effectivement à évoquer ce point-là, ce problème-là. On a le commentaire de Baudelaire qui est au Bénin, il pense que le problème des inondations en Afrique devient de plus en plus alarmant. Au Bénin, dit-il, les dégâts sont énormes. C'est un manque de bonne politique d'urbanisation de la part des autorités et un bon système de prévention des risques. De même qu'il y a des lieux inhabitables ou des couloirs d'eau qui sont aujourd'hui occupés. Ça, c'est pour Baudelaire. Et on sait également que mi-octobre, il y a eu de fortes pluies également en Côte d'Ivoire, hein, qui ont entraîné des inondations dans plusieurs villes, et ces pluies diluviennes ont causé la mort de 5 personnes à Abidjan, ainsi que de nombreux dégâts matériels et la fermeture de plusieurs routes. On prend Asmaïlou qui est au Togo. Bonsoir, comment ça va?
Ça va très bien, bonsoir.
Alors, vous dites que dans votre pays, c'est la même chose au Togo, on vous écoute.
Oui, d'abord, oui, je dis que il y a d'abord une manque d'orientation de nos carnivaux et aussi le manque d'espace à nos carnivaux. Et au même moment, les autorités du pays aussi doivent s'en charger à aider la population à gagner de bonnes localités dont ils construisent. Il faut une suivi.
Oui, alors.
À la part du gouvernement.
Oui, et vous dites en fait que le phénomène de la pauvreté vous conduit à vivre sur des zones à risque parce qu'il faut bien effectivement se trouver un endroit où vivre, c'est cela?
Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, malgré les moyens que j'ai, je vais aller choisir une localité sans savoir à préconiser si ce terrain ou cette localité va me promouvoir à vivre longtemps ou pas. Parce qu'il y a certaines zones que tu peux aller. Dès les premières années, deux années, ça ne va rien faire. Mais jusqu'à 5 ans après, vous allez voir que l'eau, la pluie va venir ronger tout autour de la localité bien des maisons dont les environs sont déjà pleins à envahir avec l'inondation. Vous voyez, donc avec la pauvreté, on ne peut plus chercher là où il faut bien vivre, on ne fait que chercher le mieux. Or, c'est le mieux là qui nous amène vers ces inondations.
Un grand merci à Asmaïlou au Togo pour ses précisions. Oui. Avant de prendre Karim Santi qui est au Burkina Faso dont j'ai parlé tout à l'heure, on va citer Victor qui est au Cameroun. Il dit les inondations sont fréquentes chez nous en Afrique, surtout en haute période pluviale, en septembre-octobre. Le problème en Afrique est que certaines constructions ne sont pas adaptées aux réalités. Il y a certaines zones qui sont déclarées par les architectes ou urbanistes comme zones à risque et donc les constructions dans ces
ces zones doivent obéir à certaines règles d'urbanisme où il doit y avoir une interdiction de construction. Mais ces principes n'ont jamais été respectés, dit-il. Il faut donc des mesures idoines pour réduire le risque causé par les inondations. Donc ça, c'est pour Victor. On va citer Lambert dans la lancée. Lambert Chileux, qui est en RDC à Mbujimayi, il dit c'est la même chose à Kinshasa actuellement et c'est grave car nos villes ne sont pas bien urbanisées. La mesure serait d'urbaniser nos villes en ayant recours aux experts pour tenir compte des conditions météorologiques pendant la construction. On prend donc Karine qui est au Burkina Faso. Bonsoir Karine, comment ça va? Ce n'est pas Karim?
C'est Karim ici depuis le coup. Oui, allô?
On vous écoute, on vous écoute.
Comme je l'avais dit d'abord dans mon commentaire, pour l'état des inondations, il faut au préalable faire une demande du permis de la construction afin de pouvoir déléguer une équipe sur le terrain. Afin de voir les conditions dans lesquelles il faut construire une maison. Pour le cas des carnivores, il faut surtout sensibiliser la population, surtout que de nos jours, les sachets plastiques sont devenus nos usages quotidiens. Donc, il faut sensibiliser les syndicats, comme je l'avais dit, c'est-à-dire les chefs de société et la mairie surtout, pour le nettoyage des rivières. Merci beaucoup.
Un grand merci, Karim Moussi. Comme la ligne n'était pas très bonne, je vais rappeler un petit peu ce que vous avez dit. Vous êtes de Lomé au Togo et vous pensez qu'avant de construire, il faut avoir des permis de construire. Et dès que l'équipe en charge sera sur le terrain, donc après étude, dira à l'intéressé si c'est possible ou pas. Et vous pensez que les syndicats, les mairies doivent organiser des meetings, des caravanes de sensibilisation sur les méfaits quand on bouche les caniveaux. Merci beaucoup. Karim, Douglas a écrit juste un mot sur notre Facebook, courage. Donc voilà, il encourage un petit peu tout le monde qui subit ce type d'inondation. Justin Philippe, au Togo, lui pense que le monde en général et particulièrement l'Afrique est frappé par ces catastrophes naturelles. Ces derniers temps dans mon pays, dit-il, ça fait pitié, surtout la capitale Lomé. Il ne fait que pleuvoir tout le temps et l'État est impuissant face à cela, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est juste que cela les préoccupe peu, pas de volonté selon lui. On a Raymond Lushima qui est en RDC, que je citerai peut-être après avoir un autre auditeur. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Alors on va citer Raymond Lushima, il dit les inondations sont l'une des conséquences dramatiques du changement climatique, leurs causes sont dues aux activités humaines, il cite notamment la déforestation, les causes de dégâts sont les constructions anarchiques sans respect des normes urbanistiques, absence ou non-entretien de la voirie, dit-il. Pour contrer les dégâts, il est impérieux que les maisons soient construites de façon durable pour résister à ces intempéries tout en entretenant la voirie urbaine pour l'évacuation des eaux de pluie. Enfin, dit-il, l'interdiction de couper les arbres dans les parcelles car ils protègent contre les vents. Donc Raymond qui est à Wembonyama dans le Sankuru en RDC. On va citer également Lenka Eratus qui est au Tchad. Alors il dit personne n'est en mesure de remédier à ce fléau, ni le gouvernement ni la population, car ce fléau touche presque toute l'Afrique centrale. Au sud-ouest du Tchad, dit-il, les produits agricoles sont endommagés par la pluie qui ne les n'est-ce pas le temps aux agriculteurs de pouvoir récolter? Pire encore, dit-il, les maisons sont écroulées. Si la récolte est faite, aucun abri pour pouvoir la garder. C'est dramatique. Alors, il dit l'État devrait intervenir, mais hélas, peut-être que les ONG viendront en secours aux pays menacés. Merci beaucoup pour votre témoignage. On a un auditeur en ligne, Aliou Gawal. Aliou Gawal, qui est en Guinée. Bonsoir, comment ça va?
Ça va, vous allez bien?
Ça va très bien. Alors vous dites que l'eau de ruissellement défonce les murs des habitations pour se frayer forcément un chemin, d'où la destruction des maisons. Vous êtes à Conakry?
Oui, je suis à Conakry, effectivement.
Alors, est-ce que vous avez également ce problème-là?
Effectivement, il y avait eu ce problème dans un quartier à Conakry au début de la saison pluvieuse, parce qu'il y avait un problème d'urbanisation, c'est-à-dire les habitants viennent sans respecter aucune norme dans tout point de vue d'urbanisation, donc ils viennent, ils construisent de façon anarchique. Et du coup, quand ça pleut et que l'eau n'a pas un passage pour continuer son chemin, forcément, avec toute la vitesse que l'eau de l'étonnement a, elle va forcément pénétrer le mur du bâtiment. Et une fois que ça pénètre, comme vous le savez, quand ça pénètre le bâtiment, c'est le bâtiment qui se fissure. C'est carrément, c'est le mécontentement total du bâtiment. Donc il y a eu un cas pareil, ici en Guinée, tout au début de la saison pluvieuse 2019 là. Et ça a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de morts et beaucoup de dégâts matériels.
Alors, Aliou, vous parlez également, voilà, comme d'autres auditeurs, de la protection de l'environnement.
Effectivement. Parce que, vous savez aussi, l'une des causes principales des inondations, c'est aussi le réchauffement climatique. Parce que, comme vous le savez, quand le phénomène du réchauffement climatique a atteint un certain niveau dans un pays, c'est carrément le niveau d'eau qui augmente dans différents pays. Et quand ça déborde, quand la mer déborde, ça va défouler son contenu. Et quand son contenu, qui est l'eau, ça se déborde dans les bâtiments, à la surface, c'est les bâtiments qui sont affectés. Donc, c'est pourquoi il faut que les dirigeants s'élèvent pour lutter contre le fléau du réchauffement climatique. Mais aussi, il faut aussi l'appui des citoyens, parce que chaque citoyen aussi a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. Donc, il faut que les dirigeants aient des initiatives et aient aussi l'appui des citoyens pour endiguer le réchauffement climatique, notamment à Rivoisin, mais aussi à ne pas participer à la déforestation abusive.
Un grand merci à Liu, à très bientôt. Christian a écrit sur notre Facebook que nos États sont interpellés pour prévenir, il faut construire des logements qui seraient adaptés aux réalités. Alors on n'a pas que l'Afrique, hein, comme on le sait, hein, les inondations frappent de nombreuses régions sur la Terre. Alors notamment on a eu 10 personnes qui ont perdu la vie et 3 autres sont portées disparues à la suite de pluies diluviennes sur le centre du Japon. Et c'est 2 semaines après le passage meurtrier d'un typhon. Alors 9 personnes ont été victimes de glissements de terrain et d'inondations, dont 2 hommes retrouvés noyés dans des voitures dans la région de Chiba, au sud-est de Tokyo. Il y a également la France où 3 personnes sont décédées dans les intempéries qui ont frappé le sud du pays, causant des inondations et des dégâts importants, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Alors les victimes ont été recensées dans les départements de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales. Un autre auditeur en ligne. Alors, on a Patrick Kitanga qui est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Alors, il dit sur notre Facebook, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui font que certaines villes ou quartiers se trouvent complètement sous l'eau après des fortes pluies, comme ce qui s'est passé à Kinshasa la semaine dernière, où la commune de la Gombe était complètement dans l'eau, dit-il. Il y a le problème lié au manque d'entretien de caniveaux, il y a le problème de construction anarchique, il y a le problème de détournement de fonds alloués à la construction de certains ouvrages, etc., dit-il. C'est Patrick, archiduc, il est au Tchad, il dit « Le cas des sans-abri après les pluies est très fréquent. Pour remédier à cela, il faut faire un système de canalisation plus performant pour drainer les eaux de pluie et une construction dure en ciment pour résister aux eaux. » Samuel Bailly, lui, il pense que ces catastrophes naturelles sont causées par le changement climatique. Aujourd'hui, si la justice existait, dit-il, les grandes entreprises qui polluent le monde seraient sommées de réparer les dégâts qu'elles causent partout dans le monde. On a le commentaire de Abdourahman Diallo qui pense que la situation des inondations en Centrafrique ne date pas d'aujourd'hui. Et Yadamas, il dit, lui, les constructions anarchiques sont à la base de tous ces phénomènes. Les services de l'urbanisme et du cadastre sont corruptibles et ils ne visent jamais les conséquences lors de la distribution de parcelles. Chères auditrices, chers auditeurs, un grand merci pour votre participation. Restez à l'écoute de VOA Afrique pour la suite de nos programmes.